Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je propose que nous fassions notre lecture dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 24. Alors, 2 Samuel, chapitre 24, et nous allons méditer sur un sujet un petit peu particulier, mais qui est là pour finalement nous garder dans la vigilance. La vigilance de la foi dans notre maintien à faire confiance à Dieu. Alors, 2 Samuel 24, verset 1er. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi mon Seigneur le voient. Mais pourquoi le roi mon Seigneur veut-il faire cela ? » Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée, et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain, ils campèrent à Aroer, et je vais un petit peu plus loin parce qu'il y a tout le descriptif de ce qu'ont parcouru les émissaires pour faire le recensement, et je retourne là, au verset 7, à la fin du verset 7, il nous est dit « Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. » David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le démembrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Alors peut-être, je ne sais pas si vous connaissez ce passage, il est rapporté également dans le livre des Chroniques, et il nous est rapporté finalement une chose tout à fait particulière. Ce récit nous situe dans la vieillesse de David. Alors on a souvent stigmatisé les fautes de jeunesse. C'est vrai, lorsque les hommes sont dans un jeune âge, ils sont quelquefois assez précipités dans leurs engagements. Mais nous apercevons que dans la Bible, il y a aussi des fautes de vieillesse. Et l'homme qui était véritablement là, l'homme au cœur de Dieu, David, a commis aussi, dans un âge avancé, une faute tout à fait particulière. Et on va apprendre, à travers cette histoire qui nous est rapportée, on y apprend qu'une des méthodes de Dieu, ou des façons de faire de Dieu, pour empêcher son peuple d'Israël de s'égarer et de se perdre, a été les circonstances ou des situations de catastrophe d'envergure qui ont touché finalement le peuple entier. Alors, c'est vrai qu'en disant cela, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Parce que ce n'est certainement pas le monde d'aujourd'hui qui accepterait ce genre de diagnostic de décadence d'une nation, d'un peuple, et ça serait certainement rejeté. Mais une chose dont nous avons besoin de comprendre, c'est qu'en tout état de cause, derrière une catastrophe qui touche une nation ou un homme. Sur le plan peut-être physique, à travers des catastrophes naturelles ou des choses comme ça. À travers peut-être une situation morale, ou à travers finalement toute autre chose, il y a toujours un arrière-plan spirituel. Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue, parce que c'est très important en ce qui concerne le peuple de Dieu, en ce qui concerne le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On sait que le péché de David dans la circonstance a amené finalement une épidémie de peste. Ouais. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et nous voyons que dans 2 Samuel 21, il est question de 3 années de famine. Et puis ailleurs, il est question de la guerre. Donc, voilà, vous avez la maladie, vous avez la pénurie, et vous avez finalement la destruction par l'épée. Pour dire que le péché des peuples et le péché des rois a donné l'occasion à de grandes leçons qu'on aurait certainement tort de mépriser aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui nous attend dans les décennies qui viennent, mais je crois qu'il y a des principes, et quand la Bible nous avertit et nous dit certaines choses, en tous les cas l'Église, je ne parle pas des gens qui sont incroyants, mais je parle de l'Église, je parle des gens qui ont foi en Dieu, dans sa parole. Il serait peut-être justement, certainement important que nous prenions toute la mesure de ce qui nous est dit à travers l'histoire de David. La raison du dénombrement a vraisemblablement été finalement les grands succès de David. Ah, ça c'est quand même assez étonnant, parce qu'on se dit, un homme qui a été vraiment un homme dont Dieu s'est servi, et David le dira, avec Dieu nous ferons des exploits, nous faisons des exploits. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, quelque part c'est un peu la bénédiction qu'il a reçue de Dieu qui l'a amené dans cette circonstance à pécher. Alors, on est difficilement à comprendre cela, parce qu'on se dit, si c'est la bénédiction, c'est la bénédiction, et la bénédiction, il n'y a rien à redire. Eh bien, justement. Et on va découvrir un petit peu ce qu'il y a derrière. Les grands succès de David, notamment ses victoires militaires, qui, à un moment ou un autre, l'auraient poussé à l'orgueil et de savoir avec exactitude, avec précision, quelles étaient ses forces, en faisant le recensement de tous les hommes, le recensement militaire, en faisant également agir tous ses généraux à la tête desquels se trouvait Joab, et également de compter le peuple, de compter tous ceux qui étaient des hommes, finalement en Israël, au service de David. On s'aperçoit que cette décision de David a enflammé la colère de Dieu. Ça n'a pas plu du tout à Dieu, la décision qu'il avait prise. Et nous voyons que ce qui n'a pas plu à Dieu, ce n'était pas qu'il compte ses sujets, David. Mais il y avait quelque chose derrière que David avait oublié, et dont nous avons vraiment besoin de faire attention aussi. C'est-à-dire que cette colère, ou cette désapprobation de Dieu, a consisté, chez David, à se croire fort, en oubliant que la véritable force, c'est celle que Dieu donne. Et c'est ça le problème. Ça revient tout simplement au principe de savoir si l'Église elle est charnelle ou si l'Église est spirituelle. Si elle marche avec des méthodes, avec des recettes, avec toutes sortes de choses d'émanation de la pensée humaine, ou c'est véritablement l'Église se maintient dans la dépendance de Dieu et de son esprit et de sa parole. Et ça change tout, hein. Ça change tout. On apprend également que, et on en tire la conclusion, enfin une première conclusion, c'est que les succès, nos réussites, l'expérience que nous pouvons avoir après des années, je rappelle que David était un homme déjà âgé, donc il avait de l'expérience, l'ancienneté dans la foi ou notre sagesse propre ne nous garantissent aucunement de faire toujours des bons choix. Je le dis quelquefois, nous avons vraiment besoin de demander tous les jours que Dieu nous donne de la sagesse et de l'intelligence spirituelle. Et ça, c'est important, c'est essentiel. Et nous pouvons en mesurer toutes les conséquences lorsque quelque part nous nous appuyons sur nous parce que nous disons « nous savons ». Nous avons appris au pied de Dieu ou à travers la parole de Dieu. Mais comme situation, comme les situations de notre vie ou de la vie d'une église ne sont jamais les mêmes, eh bien, il faut se remettre entre les mains de Dieu en disant « Seigneur, je suis là à t'écouter parce que j'ai toujours besoin jusqu'à la fin, j'ai besoin d'apprendre de toi. » Et c'est ça la question. À quel moment de notre vie notre responsabilité de dépendre de Dieu en recherchant à chaque fois sa direction, eh bien cette recherche ne doit jamais diminuer. Et en pensant que finalement ce qui s'est passé il y a 10 ans, ce qu'il y a 20 ans, dans des situations où nous nous sommes trouvés en difficulté, eh bien ça ne veut pas dire que la situation d'aujourd'hui elle se présentera de la même manière et la solution se présentera identiquement. Ça ne doit jamais diminuer notre confiance en Dieu et à chaque instant. Nous devons toujours être en permanence, eh bien, dépendants, finalement, de Dieu. Et ça, David l'avait oublié. Dans un psaume 33, il nous est dit cette parole, « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. » Ça, c'est une vérité. Et dans un passé déjà ancien, combien de fois David, qui n'était pas encore roi, mais qui était fugitif, qui était menacé jour et nuit par Saül, le roi de ce temps, avait expérimenté dans sa faiblesse et dans sa solitude que Dieu était avec lui et quelle délivrance miraculeuse avait été les siennes. Ouais. Il l'avait vu, il n'avait pas d'armée à ce moment-là, il était tout seul. Il était tout seul à se battre contre l'armée finalement du roi. Et pourtant Dieu avait été avec lui. Et c'est quand il était petit, c'est quand il était humble que finalement, eh bien, la grâce de Dieu l'accompagnait et lui apportait la délivrance dont il avait besoin. Là, il semble que quand il est arrivé à un certain âge, assis sur son trône, en train de compter tous ses hommes de guerre en disant « Mais finalement, je suis arrivé à quelque chose. Hein. Je suis arrivé à quelque chose. » Et maintenant, David est devenu un homme sûr de lui et il comptait sur son armée et moins sur Dieu. Attention, c'est important cela. Et nous sommes confrontés les uns et les autres avec les dangers de la prospérité. Ouais. On pourrait dire, ben écoutez, vous savez, remarquez, Dieu nous tient dans l'humilité, hein, parce que le succès et l'avantage du nombre dans notre communauté n'est pas au rendez-vous. Alors on peut toujours dire, bien Seigneur, on aimerait tellement que les chaises soient remplies, on aimerait tellement que finalement, eh bien là, dans nos cultes et ceci et cela. C'est vrai, mais je ne discute pas sur la chose. Mais que quelquefois, quand on voit que le contraire, quand ça se produit, l'Église en oublie Dieu, alors attention, faisons attention, hein, parce que là ça peut devenir plus grave. Parce que vous savez, quand on est peu nombreux, et que l'on prie pour qu'il y ait des âmes qui viennent, eh bien on se tient sur la brèche. Mais quand les âmes viennent, on n'a peut-être plus forcément envie de prier pour le salut des âmes. Parce qu'on a du monde, et puis ceci et cela, on a les moyens, et c'est vrai que sur le plan de matériel, c'est exactement la même chose. Faisons attention. L'affaire du dénombrement, je voudrais en dire quelques mots. Pour des raisons religieuses, c'était une vérité biblique, parce que Dieu avait ordonné de compter le peuple. Et ce comptage, si on peut l'appeler comme ça, s'accompagnait d'une taxe qui était payable sur le temple. Or, David avait compté, mais sans donner le correspondant à Dieu. Il avait oublié la parole de Dieu, il avait oublié la volonté de Dieu dans cette affaire. Il voulait bien compter, mais il ne comptait pas pour Dieu, il comptait pour lui. Tout simplement. Parce que Dieu avait promis de multiplier la nation, mais cette bénédiction, que nous pourrions appeler aujourd'hui avec nos mots modernes « démographiques », ne devait jamais être une source d'orgueil et d'exaltation ou d'exalter la force et le prestige humain. C'est ça le problème. Et je crois que ça revient à la même chose. Tout ce qui peut se passer dans l'Église, les beaux témoignages que nous entendons, les miracles, les prodiges, le surnaturel que nous avons connu, que nous connaissons et que nous pouvons connaître encore parce qu'il existe, eh bien ne viennent pas nous faire perdre la tête en disant « mais c'est nous les champions ». C'est nous, alors donc, nous sommes bénis, nous avons vraiment quelque chose de particulier par rapport aux autres. Eh bien, justement, c'est ça le problème. C'est de rester humble et modeste jusqu'au bout. Et de demeurer, finalement, dans cette attitude et dans cette position, dans cet état d'esprit. Et on retrouvera, finalement, cette faute, par exemple, chez Ézéchias, le roi Ézéchias, qui viendra, finalement, eh bien, très longtemps après David, et qui, lui, dans sa grande fierté, va dévoiler tous ses trésors aux ambassadeurs de Babylone. Et on connaît la suite. Ils sont pas venus pour rien. Ils se sont dit, tiens, un jour, on viendra à Jérusalem. Et quand on viendra, on n'y reviendra pas en touriste. On reviendra avec nos armées. Et on mettra tout ça, finalement, eh bien, dans nos trésors à nous. Soyons prudents. Soyons prudents à ce que l'on dit. Soyons prudents aussi quand on confesse les choses. Parce que on peut les confesser devant le Seigneur, on peut les confesser devant Dieu, mais on les confesse aussi devant le diable. Et lui, il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd et il connaît la nature de notre cœur. Alors la menace subsiste pour l'Église d'aujourd'hui. Une représentation quantitative. C'est un petit peu le cheval de bataille des pasteurs. Hein. Eh oui, c'est vrai qu'il faut travailler. C'est vrai qu'il faut s'occuper des âmes. C'est vrai qu'il faut faire du nombre. C'est vrai qu'il faut faire ceci. C'est vrai qu'il faut multiplier les réunions. C'est vrai qu'il faut multiplier les missions, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord. Je ne vais pas vous dire le contraire ce soir. Mais c'est la motivation et l'état d'esprit dans lequel nous faisons. Si c'est pour la gloire de Dieu, si c'est pour le salut des âmes, on est tout à fait d'accord. Mais si c'est pour, finalement, à un moment donné, faire l'étalage et vanter nos organisations. Si c'est pour vanter nos programmes, si c'est pour mettre en avant nos succès d'église qui marchent, et puis en attirer peut-être quelquefois, en rechercher la considération du monde alentour, la recherche d'être connu, de dire, eh bien voilà, monsieur un tel a fait ceci et cela, d'être approuvé, c'est-à-dire tout ce qui tend à remplacer la force et l'esprit de Dieu par la force ou l'intelligence ou la sagesse de l'homme. Attention, c'est grave. Ça ressemble au spirituel, mais c'est plus du spirituel à ce moment-là. Parce que l'homme a des ressources. Même dans le domaine du religieux, du fait religieux, il a des capacités, il a peut-être des talents oratoires, il a peut-être des techniques et ceci et cela, mais qu'est-ce que Dieu a à faire avec tout cela ? Il veut que les hommes, que ses enfants, que ses témoins, que ses ambassadeurs, que ses pasteurs, que ses serviteurs soient des hommes qui soient tout simplement, eh bien là, à ses pieds pour recevoir et être remplis de la plénitude du Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il demande, le Seigneur. Et là, ça change tout. Quand je suis grand, quand je veux être grand, je suis vraiment petit. Mais quand je me sens petit, eh bien Dieu élève. Et pour sa gloire, seulement pour sa gloire. On ne serait pas attendu à David, hein. On ne serait pas attendu à voir David dans ce piège. Alors ça, c'est quelque chose. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, il nous est donné cette parole. « Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Dieu dit, « Mais t'es pas riche du tout, t'es pauvre. Parce que tu dis que, finalement, tu t'es enrichi. Mais tu es misérable. Ta vie, elle est médiocre. Tu n'as besoin de rien, tu as besoin de tout. Tu as besoin de tout et tu ne sais pas que tu as besoin de tout. » Dans Luc, Jésus nous prévient, et il dit ceci au Luc 6, 26, « Malheur, malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous. » Ouais, ouais. Alors faisons attention, que nous ayons un bon témoignage vis-à-vis de l'extérieur, d'accord ? Auprès des autorités, auprès de tout le monde qui nous environne, c'est normal que nous ayons finalement un bon témoignage à rendre. Mais quand on commence finalement à dire « Ah là là, ils sont des nôtres », alors à ce moment-là, ça sent mauvais, hein, parce qu'on n'est pas des nôtres, on n'est pas des leurs. On n'est pas des leurs dans l'esprit. On fait partie de l'humanité, c'est vrai. On est impliqué dans tous les aspects de la vie, mais la mentalité n'est pas la même, le cœur n'est pas le même. Et c'est comme ça d'ailleurs que le christianisme primitif a complètement été englouti dans le monde, hein, au IIIe siècle. Alors attention, il faut faire attention. David voulait sentir la force de ses soldats, de son royaume. Il voulait sentir la force de la nation, parce qu'il était leur roi. Et il se dit, ah, c'est quelque chose, je suis quelqu'un. Et je dis et je rappelle que quand les pasteurs et quand les chrétiens commencent à dire nos ou nos églises, notre Église, elle est belle et grande, on peut le dire. Voyez, admirez. Alors il faut faire attention d'oublier ce qui suit, que ce n'est pas notre Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, d'une. Que elle n'est que sous l'autorité du Saint-Esprit, et pas sous l'autorité d'un homme. Parce que là, c'est épouvantable. C'est terrible, hein ? Faut faire attention. Et l'étalage d'une certaine réussite, ou le contentement qui l'accompagne, peuvent être catastrophiques et attirer la réprobation de Dieu sur ce qu'il a béni hier. Et ça, on l'a vu. Il faut faire attention. Et moi, je dis ça pour la suite. Parce que faisons bien attention et prions. Et c'est pas un phénomène uniquement local. Mais ça peut être bien au-delà, finalement, et bien de notre vision et de ce que nous pouvons appréhender autour de nous. Mais faisons attention. Parce que il peut y avoir des dangers. Et David, dans son désir expansionniste d'agrandir toujours plus ses frontières, eh bien, avait quelque peu perdu la vision qui était celle du Dieu d'Israël, dont il était le roi. Être un témoin spirituel, c'est ça ce que Dieu nous demande, pas autre chose. C'est pas nous qui faisons. Mais c'est toi, Seigneur, qui accomplis toutes choses, dans la mesure où je veux te laisser faire les choses. Autrement, si tu veux que je fasse, eh bien moi je vais comprendre que de toute façon, toi tu ne feras pas. C'est pour ça que la priorité doit toujours être donnée à Dieu. Alors, être un témoin spirituel plutôt qu'une puissance politique, militaire, religieuse au regard des autres nations. Et c'était le problème pour David. Le verset 2, il nous dit qu'on fasse, c'est David qui dit ça à ses chefs d'armée, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. C'est quand même assez curieux, hein. À l'heure où le monde s'engouffre, et nous le voyons tous les jours, dans toutes sortes de compétitions nécessaires à sa survie, là où les hommes répondent à des mots d'ordre tels que gagner, conquérir, être les premiers, les meilleurs, les plus grands, et ceci et cela, moi je dis que l'Église de Christ n'a pas à suivre les mêmes critères pour être forte et réussie, et réussir. Certainement pas. Nous n'avons pas besoin de recenser nos forces, mais nous avons besoin de recenser les forces de Dieu. Et ça change tout. Parce que notre recherche sera dirigée et orientée dans le bon sens à ce moment-là. Et vous savez ce que dit le prophète dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle par le prophète, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Voilà, ça nous est rappelé. Dans le livre des Chroniques, le même texte, mais avec une petite nuance tout à fait particulière, et je vais m'arrêter. Il est indiqué que c'est Satan qui se leva contre Israël et qui excita David à dénombrer le peuple. Écoutez, je relis simplement le passage. Il nous est dit dans 1 Chronique 21, verset 1er, « Satan se leva contre Israël. » Et il s'est levé contre Israël parce que Israël, c'est le peuple de Dieu. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël, et David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez, faites le dénombrement. » Voilà. Donc, derrière, quelquefois, l'orgueil d'un homme, ou derrière l'orgueil d'une nation, ou quelquefois l'orgueil quand il s'est installé, même dans une église, il y en a un qui exploite, vous comprenez ? Il y en a un qui est là à attendre, le séducteur. Et le séducteur qui est aussi en même temps le destructeur. Quoi qu'il en soit, partout où le cœur de l'homme oublie Dieu et s'élève, l'adversaire ne tarde jamais à se précipiter dans la brèche, dans la faille que nous lui laissons et à mener, si possible, à pécher. Et c'est ce qui est arrivé finalement à ce moment-là à David. Et il apparaît un détail sans importance au prime abord, mais qui trouve toute sa gravité quand il est dit, et quand Joab va voir le roi David et lui dit « Ne fais pas le dénombrement d'Israël et de Juda. » Parce que là, il y avait un double péché et qui allait augurer quelque chose qui allait venir beaucoup plus tard dans la succession de David. Après la succession de Salomon, vous allez le découvrir, c'est que vous avez remarqué à un moment donné, le recensement a été commandé et il est fait en séparant la nation. Vous irez d'un côté pour Israël et vous irez d'un côté pour Juda. Ben, les choses étaient déjà faites. Et il y en a un qui l'avait entendu et qui l'avait compris, c'était le diable. Israël d'un côté, Juda d'un autre. C'est ce que nous dit le verset 9 hein, dans notre lecture. Est-ce que cela ne constituait pas en germe le danger de promouvoir la division et l'esprit de parti et peut-être de l'orgueil chez David pour sa tribu, parce que David était de la tribu de Juda. On va loin dans la réflexion. Mais attention, dans ce genre de démarche, il y a toujours quelque chose qui peut être suggéré quand on ne reste pas dans la pensée de Dieu. Il était le roi de toute la nation. Et il n'y avait pas à faire la séparation entre Juda et puis Israël. Et ça, c'est une première atteinte à l'unité nationale. Et quelques temps après, quelques décennies après, le schisme viendra. Je m'arrête là pour ce soir. Mais retenons qu'il faut faire attention à ne pas être trop sûr de nous. Même après des temps de bénédiction ou une vie de bénédiction. Je crois que jusqu'à la fin, que Dieu nous garde dans la modestie et l'humilité. Parce que il en va, finalement, du plan de Dieu. Dieu n'est jamais à court, même quand son plan il part de travers, il trouvera toujours les moyens. Mais que de souffrance, et que de tristesse, et que de déchéance aussi. Alors que Dieu nous bénisse. On y reviendra parce que vous savez l'histoire du dénombrement de David. C'est une formidable leçon qui nous amène à la croix, qui nous amène à la justice de Christ. On en reparlera. Pour l'instant, je m'arrête là. Mais retenons une chose, c'est qu'un homme comme David, comment a-t-il pu tomber dans un tel piège? Quand on connaît qu'il est appelé, finalement, eh bien l'homme selon le cœur de Dieu. Et si c'est arrivé à David, faisons attention pour nous, chacun d'entre nous, et pour nos églises, parce que le piège est toujours tendu. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Nous te demandons, Père éternel, de bien vouloir nous garder dans tes voies. Oui, Seigneur, que tu gardes nos pensées, Seigneur, dans de bonnes dispositions. Alors, Seigneur, tu as raison de nous dire, si vous ne redevenez comme des petits-enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Ça veut dire tout simplement, Seigneur, que lorsque le germe de l'orgueil commence à rentrer dans nos cœurs, alors à ce moment-là, véritablement, Seigneur, le péché de l'origine dans le jardin d'Éden a commencé, Seigneur, à pousser. Mais, en effet, le fruit, eh bien, Seigneur, est toujours un fruit mauvais, un fruit de peine et de chagrin, un fruit, Seigneur, qui n'arrive jamais à maturité. Seigneur, donne-nous de rester dans ta dépendance, Seigneur. Nous t'en prions encore ce soir, et merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.